Histoire de terre. Bonjour et bienvenue sur Radio Vassivière pour cette nouvelle histoire de terre. Aujourd'hui, une histoire à plusieurs voix, puisque nous sommes allés rencontrer un collectif de maraîchers du côté de Saint-Moreil. Il s'agit de 5 paysans et paysannes, David, Camille, François, Mickaël et Stéphane, chacun installé sur sa propre exploitation et ayant choisi la production végétale, production de plants, maraîchage de plein champ, production de petits fruits. Ils travaillent chacun à leur façon, mais ils ont choisi de s'organiser à plusieurs dans ce qu'ils nomment l'arban des maraîchers pour se donner des coups de main, réfléchir ensemble à certaines problématiques liées à leur activité et rompre la solitude du paysan. Ce jeudi, comme chaque semaine, ils se retrouvent sur l'exploitation de David cette fois, au programme désherbage dans les serres, plantation de poireaux et éclaircie des carottes. Vous les entendrez donc successivement décrire leur activité personnelle, mais aussi expliquer les raisons qui les ont poussés à s'organiser collectivement. Donc là, on profite de la fraîcheur du matin pour pouvoir travailler à l'intérieur des serres.
On va te faire du travail physique, un peu du réchauffement musculaire.
Ici, on est à la Viale, chez vous, David. Et vous êtes maraîcher, c'est ça?
Ouais, j'essaye. J'essaye d'être maraîcher depuis 2009. Ouais. J'ai ma première saison en 2009. Et là, c'est un peu un renouveau parce que j'ai pris une année sabbatique, j'ai prêté le jardin. Ouais. À des amis l'année dernière, et donc je redémarre avec un esprit un peu neuf, une fraîcheur de débutant en fait cette année. Voilà. Et puis voilà, j'essaye de trouver un équilibre avec ce métier, quoi, que ça puisse que je puisse avoir du temps pour les enfants, pour d'autres activités qui me plaisent. Et le défi c'est ça, c'est de trouver un équilibre entre du temps libéré et puis aussi voilà, de jardiner, ce qui est une activité qui me plaît beaucoup, mais je veux pas que ça me prenne tout mon temps. Donc, voilà, j'essaye de peaufiner pour trouver cet équilibre.
Donc c'est ça le changement par rapport à avant. Avant, vous étiez maraîcher, vous avez été maraîcher pendant plusieurs années, à passer toute votre vie à faire ça, quoi.
Voilà, je me suis installé donc en 2009 avec la DJA, et effectivement, après, c'est à l'intérieur de ma tête, hein, je pense, où c'est une pression qu'on se met de se dire... voilà, il y a des emprunts à rembourser, il y a 5 ans qu'on doit... enfin, voilà, d'obligation, alors que on peut aussi enfin c'est assez supportable cette pression, quoi. C'est je pense que c'est beaucoup à l'intérieur de nous, mais voilà, effectivement, là je choisis de redémarrer avec l'expérience aussi d'avant, en sachant à peu près ce que je peux porter voilà, le fait que je puisse aussi passer du temps pour autre chose que jardiner, c'est pas très... Enfin voilà, je sais pas. C'est aussi voilà, c'est ce pari de dire qu'on peut quand même faire cette activité sans que ça nous. Voilà, je sentais que ça m'usait, quoi. En fait, au bout de plusieurs années, j'ai senti le besoin de souffler. Et en fait là, voilà, je m'aperçois que cette année, je conduis là, le jardin avec du plaisir, et du coup, voilà, je sens que ça me fatigue moins, quoi. Ça, voilà, je prends beaucoup de plaisir à travailler jusqu'au soir sans que ce soit... Donc c'est beaucoup à l'intérieur de nous, quoi, en fait. Hein, le fait de subir une activité ou de que cette activité puisse nous nourrir, quoi. Là, c'est une posture, je pense, psychologique. Ou,
vous pensez que c'est plus à la pression qu'on se met soi-même est-ce que ce serait pas lié justement au fait d'être contraint par une institution avec le fait de toucher la DJA ou...
Je sais pas, après je pense que objectivement c'est un métier qui est difficile, c'est-à-dire que par rapport au travail que ça demande, effectivement c'est une rémunération qui est qui est assez, assez limité, et que du coup, il ne faut pas effectivement faire ça en pensant que c'est une activité juste économique. Si c'est ça, c'est très usant, parce que c'est assez ingrat et tout ça. Si en plus, on arrive à trouver du sens, à être présent comme ça, dans son jardin, et puis voilà, être, observer les choses, les éléments, les choses qui fonctionnent, les réussites aussi, apprendre des erreurs. Et donc ça peut être... Ça peut être, voilà, après l'institution, non, je pense que, je sais pas trop comment, je pense qu'on peut s'en affranchir assez vite, quoi, en fait. Hein. Je pense qu'on est assez fort, assez grand pour se mettre la pression tout seul, et que, voilà. Je pense que, voilà, c'est juste une attitude, moi, enfin, c'est mon avis, quoi, que c'est l'attitude qui permet de se nourrir de cette activité plutôt que ce soit elle qui nous use et tout ça, quoi.
Voilà. Et alors, comment vous avez fait pour limiter, pour à la fois continuer à faire cette activité, prendre du plaisir et avoir du temps pour autre chose? Vous avez diminué la surface?
Après, il y a aussi le travail en amont qui fait que effectivement c'est beaucoup plus facile de vendre les légumes. Il y a eu, j'ai démarré des marchés, j'ai lancé une AMAP à côté de Limoges sur Fétia, et du coup tout ça c'est le fruit un peu de ce travail de défrichage des années précédentes qui était assez, du coup il y a ce côté en moins déjà qui soulage, c'est-à-dire qu'on sait pourquoi on travaille, il y a des gens qui attendent nos légumes, qui ont besoin de nos légumes, du coup il y a, voilà, déjà il faut avoir ce sens, parce que si les premières années où il y a un retour de marché, où il y a la moitié du camion qui est encore dans le camion à la fin du marché, effectivement on se questionne en se disant pourquoi tant d'efforts et tout ça, et là le fait d'avoir cette reconnaissance des gens voilà, qui apprécient les légumes, effectivement c'est déjà, voilà, c'est déjà ça qui en moins en fait comme aussi comme effort, voilà, pour moi c'est le côté commercial qui muse plus que je crois la production, donc déjà ça il y a un soulagement de ce côté là et puis il y a aussi une terre qui s'améliore, il y a, voilà, c'est le fruit un peu avec cette dans la durée, voilà, il y a aussi voilà, des expériences que j'ai fait par le passé qui fait que je vais m'user moins pour le même résultat, et la terre qui est aussi plus généreuse qu'au début, donc tout, voilà, donc je peux faire un peu moins de culture parce que je sais que les cultures je les mène jusqu'à la récolte, alors que quand effectivement au début il peut y avoir des échecs et de faire du travail un peu gratuitement, ça use plus aussi, quoi, donc là voilà, il y a ce fruit un peu de l'expérience, on va dire, qui permet de faire moins d'efforts et d'avoir les mêmes résultats économiques pour moins d'efforts. Voilà.
Oui, donc faut accepter d'en baver un petit peu au départ, quoi.
Voilà, on fait comme ce qu'on fait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a aussi ça, quoi. C'est là, tous les jeudis matins, on se retrouve avec les collègues. Voilà, c'est ça qui fait qu'on, voilà, ça donne de l'énergie, c'est des chantiers qui sont un peu ingrats peut-être à faire tout seul, et puis le fait que tout une fois par mois il y a des copains qui viennent pour mettre un coup sur le chantier, voilà, c'est ça c'est essentiel pour moi du coup de réussir à, voilà, à trouver des solutions.
Donc ces journées, vous appelez ça les arbans, c'est ça?
Voilà, l'arban des maraîchers, voilà, on est sur un rayon de 15 km en fait, voilà, on est plusieurs petits maraîchers à essayer de vivre humblement de cette activité, et voilà, l'idée c'est de se mettre un peu en réseau, de pouvoir on s'apercevait en fait que dans la saison on se voyait pas, on se faisait une réunion en fin de saison pour commander des semences ou voir un peu faire le bilan de notre saison, mais effectivement au cours de la saison on se voyait pas, ce qui fait qu'on était assez isolés, la tête dans le guidon chacun de notre côté, et puis on a donc décidé cet hiver de s'obliger à se voir une fois par semaine, donc à tour de rôle, donc c'est chez les uns et les autres, et du coup en disant effectivement on a des choses, des urgences à faire dans notre jardin, mais on s'oblige à être présent le jeudi matin pour se retrouver et voilà, nourrir d'organiser une entraide comme ça, de se l'organiser une fois par semaine, une matinée par semaine, et donc voilà, c'est quelque chose aussi voilà, qui est super, qu'on peut, essayer de enfin moi voilà, on peut essayer effectivement de s'installer en collectif et tout ça, et là c'est un compromis pour moi pour l'instant qui me convient bien, c'est-à-dire que on a chacun notre lieu, on conduit notre jardin à notre sauce, on n'a pas voilà, et en même temps on organise du collectif pour pouvoir aller chez le jardin du voisin, de voir un peu comment ça pousse chez lui, comment quelle linéaire technique il choisit, enfin voilà, on s'enrichit aussi de l'observation du jardin des autres, et donc et en même temps on a cet individualisme en nous qui est nourri par le fait qu'on crée notre propre espace, et que voilà, pour l'instant c'est le compromis entre le collectif et puis le besoin de faire ces choses de création et de ne pas faire que du compromis au quotidien, voilà, ce qui peut nous user encore. Voilà. Donc c'est un équilibre qui me convient parfaitement là, entre le collectif et l'individuel. Là. Voilà.
Alors j'aimerais bien qu'on décrive un petit peu cette exploitation, je ne sais pas comment vous dites. Donc là, il y a trois grands tunnels.
Oui, il y a 720 mètres carrés en tout, en fait. Ouais, c'est des tunnels de 30 mètres par 8. Et donc ça fait 720 mètres carrés de surface couverte. C'est au moins la moitié de la production. En fait, les récoltes que je fais sous ces trois serres, sous ces 720 mètres carrés, c'est une part importante en fait, de la production. Quoi. Donc les cultures plein champ, c'est plutôt du complément. Voilà, je ne suis pas non plus super équipé pour faire des kilomètres de carottes. Donc il y a beaucoup d'entretien à la main. Quoi, et donc voilà, c'est à peu près 5000 m² dehors, quoi, et en extensif plutôt. Je fais une culture par année, donc c'est la culture légumière de plein champ. Et donc voilà, ça suffit largement pour occuper un homme.
On est à combien d'altitude ici?
On est à 500 mètres. 500 mètres, ouais.
Et donc les cultures de plein champ, essentiellement, c'est qu'est-ce que c'est?
Alors c'est de la pomme de terre, c'est de la racine, voilà, il y a un peu de carottes, de betteraves. Après, comme je livre des paniers sur Fétière, en fait, j'ajoute de la diversité, comme des salsifis. Je fais des salsifis qui ne se vendraient pas trop sur le marché, mais avec les paniers, c'est plutôt sympa pour les gens. Enfin voilà, c'est des choses qu'ils apprécient, qui sont pas... voilà, il y a du potiron, de la pomme de terre aussi, qui prennent beaucoup d'espace. Et donc, voilà, et j'aime bien les haricots aussi, c'est une culture que j'apprécie assez, donc il y en a pas mal dehors aussi. Ouais.
Et donc vous, pour commercialiser les légumes, c'est donc vous avez parlé d'une AMAP, les paniers c'est pour la MAP, hein, c'est ça?
Voilà, la MAP, c'est, voilà, après c'est assez modeste, il y a une quinzaine de paniers en fait, que je vais livrer tous les mardis, donc ça me permet d'avoir deux temps de récolte en fait sur la semaine, et donc c'est la deuxième, le deuxième débouché, c'est le marché de Péra tous les samedis matin en fait. Donc, je récolte le mardi et le vendredi, donc en saison, et voilà, c'est un équilibre que j'ai trouvé depuis 5 ans en fait, je fonctionne comme ça, et voilà.
Peut-être qu'on peut rappeler ce que c'est une AMAP.
Alors une AMAP, c'est l'association pour le maintien de l'agriculture paysanne. Donc c'est une association, donc on n'a pas de statut déposé loi 1901, c'est juste en fait les consommateurs s'engagent à prendre un panier, moi je m'engage à leur apporter un panier hebdomadaire. Et donc voilà, c'est moi qui compose un peu le panier, c'est-à-dire que les AMAPiens on se courage d'accepter les légumes qui sont présents dans le jardin. Donc voilà, c'est pour nous producteurs une sécurité, c'est-à-dire qu'on peut écouler ce qu'on produit. Ouais, j'ai plus envie en fait de l'activité avec ce côté de subir les situations, alors que, enfin, effectivement, j'ai pas envie de vivre l'activité de cette façon-là. Donc, si je fais le pari de reprendre en fait l'activité, quand je me suis posé, donc il y a 2 ans, je pensais pas forcément reprendre tout de suite et tout ça, quoi. Je m'étais vraiment dit, j'ai envie de faire une autre activité, de m'occuper des personnes âgées, par exemple, c'était une idée. C'est ce qui m'a permis, cette idée, enfin, d'avoir une idée d'autre activité, en fait, m'a permis d'avoir le courage d'arrêter l'exploitation au moins une année.
Et au niveau matériel, vous arrivez à vous en sortir quand même, ou ça veut dire aussi accepter de vivre avec peu d'argent?
Ouais, c'est un peu ça, c'est effectivement en arrivant ici. Je pense que dans la Creuse, on n'a pas besoin du SMIC en fait pour avoir une vie confortable et puis décente. Et effectivement, après, on a cette richesse d'avoir des légumes en abondance, de pouvoir aussi échanger avec d'autres acteurs du territoire, des gens voilà, qui essayent de construire une activité pour vivre sur ce territoire. Parce que c'est effectivement. C'est difficile effectivement de vivre d'une activité de salarié dans le coin, quoi. Je pense que c'est assez rare. Et donc voilà, on est tous là à créer notre activité, à trouver un moyen de pouvoir gagner l'argent qui nous permet effectivement de brûler encore le carburant, de payer les assurances, tout ça. Donc c'est. Les besoins sont limités, mais c'est pas de la frustration. Comment fixer ses prix pour que ce soit au plus juste, en fait, est-ce que c'est par rapport à la concurrence, est-ce que c'est par rapport au prix à l'idée du prix que se font les consommateurs, de dire de ne pas les choquer en mettant des haricots trop chers. Voilà, donc ça, il y a un côté assez arbitraire dans la fixation des prix, mais bon. Voilà, je pense qu'effectivement, si on voulait gagner le SMIC horaire, je pense qu'il faudrait. Ça serait assez compliqué pour les consommateurs, quoi. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir rendre accessibles les légumes au plus grand nombre et donc d'accepter de ne pas calculer cette marge brute ou ce coût horaire du travail, quoi. De ne pas rentrer dans ces calculs-là parce que ça marcherait pas avec les repères habituels et tout ça. Quoi. Donc, voilà.
En tout cas, il y a un truc qui revient souvent, il me semble, quand on va voir des paysans, hein, qu'ils soient éleveurs ou maraîchers ou autres, c'est ce que vous disiez là sur que c'est pas un métier, c'est une vie. Et que si on le conçoit que on veut faire une différence entre sa vie et son métier, quand on est paysan, ça marche pas.
Je pense qu'il faut voir effectivement cette activité comme reliée au reste, en fait, le fait que j'ai deux enfants avec qui sont contents de m'accompagner au jardin, que quand les amis qui viennent, ils passent aussi du temps au jardin, ça fait partie de mon. Entre la maison, c'est un espace que j'essaye d'entretenir. Et donc je vois ça comme un tout. Et c'est ce regard-là qui permet en fait de rendre vraiment agréable ce choix de vie, quoi. Voilà. Si on focalise sur l'économique et tout ça, ça devient tout de suite compliqué. Donc je pense que en tout cas pour moi, c'est la juste attitude de voir ça comme quelque chose de tout. Est-ce qu'on prend plaisir à ce qu'on fait? Et voilà, c'est comme ça que j'ai envie de progresser là-dedans, quoi, dans cette façon de d'occuper mon temps et de donner du sens à ma vie. Voilà.
François, vous êtes producteur de plants.
Oui.
Où ça?
Du côté de Montboucher. Montboucher, c'est près de Bourganeuf. Voilà.
Et donc, vous faites essentiellement de semis et vente de plants sur les marchés, ou comment ça se passe?
Bah ouais, je fais ça. Je pars de la semence et puis jusqu'au plant. Je fais beaucoup, beaucoup de légumes. Un peu de fleurs, un peu d'aromatiques, et essentiellement des vieilles variétés. Voilà, des variétés population. Voilà, que je vends sur les marchés, dans des associations aussi, dans des foires, en direct à la ferme. Des maraîchers aussi qui prennent des plants. Voilà, mais à peu près tout ça.
Et donc ça veut dire que sur les semences, vous produisez vous-même vos semences pour avoir des variétés adaptées, rustiques ?
Un petit peu, sur certaines variétés qui sont assez faciles à réaliser, des tomates notamment, des aromatiques, des choses comme ça. Après il y a d'autres semences qui sont plus compliquées à réussir et à maintenir stable, on va dire. Donc là on achète encore, je dis on parce que du coup... justement avec les copains de l'Arban, on essaye de s'organiser pour multiplier certaines variétés, quoi. Faut pas qu'il y ait de croisement et tout ça. Voilà, voilà.
Oui, donc ça, c'est un autre aspect de cette association de fêtes, parce que David parlait des journées de travail comme aujourd'hui. Mmh. Et donc il y a aussi d'autres échanges ou mutualisations.
Ben oui, il y a ce projet de semences, par exemple pour les tomates. Là, cette année, je me suis occupé de faire la liste de toutes les tomates qu'on cultivait, qu'on pouvait potentiellement multiplier. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on en est à une cinquantaine de variétés là. Et voilà, du coup, on peut après se donner des infos. Tiens, moi j'ai cultivé telle variété, elle va bien là, elle se comporte comme ci, comme ça, et ça permet de. Bon, après c'est tout nouveau, donc comme c'est la première année, on verra ce que ça donne, mais. Oui, c'est des projets qu'on peut essayer de mettre en place, quoi. Bah, pour économiser un peu, parce que la semence, ça coûte quand même vachement cher. Et voilà, après, je dis pas qu'il faut non plus tout faire soi-même, quoi. C'est pas possible, mais une partie, ça peut être pas mal. Hein, déjà.
Voilà. Et vous, ça fait combien de temps que vous faites ça, cette activité ?
Ben moi, ça fait... là, c'était ma troisième année, là, en plan. Donc, c'est récent aussi, quoi, ça.
Donc vous êtes installé au début tout seul, après quoi, est-ce que vous avez fait une formation, une DJA
ou... Non, pas de DJA, moi j'ai appris sur le tas chez des producteurs. En étant salarié chez des producteurs, quoi, j'ai appris comme ça, par moi-même, quoi, puis en donnant des coups chez des copains. Donc non, j'ai tout autofinancé. Donc ça c'était quand même pas évident au début, mais bon finalement ça va, ça a l'air de tenir quand même pas mal.
Et quand on fait que des plants, on a besoin de moins de surface de culture ?
Ah bah non, oui, c'est tout petit. Hein. Moi, j'ai deux tunnels. Donc, j'ai 420 mètres carrés en plants. Enfin, c'est vraiment tout petit. Hein. Mmh. Après, j'en vis pas encore complètement. Hein. Donc, je travaille à côté le reste de l'année, quoi. C'est pas, pour l'instant, j'ai pas assez de clients encore pour vraiment vivre que de ça, quoi. Après, je sais pas si non plus c'est un but de vivre que de ça, quoi. Peut-être pas. Hein. Peut-être que j'ai envie de faire plein d'autres choses aussi à côté, quoi. Donc,
ouais. Est-ce que le fait d'avoir envie d'avoir une vie en dehors de son activité maraîchage ou plant, c'est une des raisons qui vous a motivé à participer à ce regroupement ?
Oui, parce qu'en saison. En saison de plants, c'est des journées de fou. Si je m'écoutais, je verrais personne, quoi. Je ferais que travailler et aller dormir. Donc c'est bien du coup d'avoir au moins une fois par semaine de s'y tenir, de voir du monde une fois par semaine. Et en saison, franchement, ça compte pas mal, quoi. Parce qu'il y a tellement de boulot que bon. Voilà, sinon je reste chez moi et je vois personne, quoi. À part au marché, bien sûr, mais. Donc voilà, non, ça c'est vraiment bien. Et puis ça permet, comme David a dû l'expliquer, de faire des gros chantiers pénibles. Quand il y a du désherbage de carottes à faire, c'est sûr que c'est quand même plus sympa de le faire à plusieurs. Hein, voilà. Non, ça c'est. Bon, la vie à côté, oui, c'est important. Oui.
En tout cas, David, il parlait d'un compromis entre justement le besoin d'avoir son pouvoir de création individuelle et l'autre besoin de pouvoir penser les choses collectivement.
Non, de toute façon, c'est sûr que c'est toujours intéressant ce genre d'expérience, hein, de voir d'autres manières de faire, de pouvoir échanger sur les pratiques. Enfin, ça, c'est obligé, quoi. Ça. Bon, je trouve que du coup ça respecte bien les deux quoi. Moi je serais incapable de travailler en communauté ou des choses comme ça. Je suis incapable non plus de travailler complètement tout seul quoi. Donc là c'est bien, c'est entre les deux. C'est bien, c'est bien.
Et des fois vous avez des grands débats entre vous?
Des fois c'est bien aussi, on peut avoir des débats politiques pendant qu'on désherbe. Voilà. Il y a souvent des discussions animées, on va dire, c'est bien.
Alors c'est quoi les sujets, les questionnements politiques du maraîchage?
C'est trop personnel ça.
Des fois on n'est pas tout à fait d'accord sur les méthodes, on n'a pas les mêmes méthodes quoi, de travail. Mais on essaye aussi, c'est un peu un principe de pas, quand on est chez quelqu'un, d'appliquer les ordres de la personne qui accueille. C'est-à-dire qu'au début, on était souvent à dire « Ah, mais t'es sûr que tu veux faire comme ça ? Pourquoi tu fais pas plutôt comme ça ?» Et en fait, ça, c'est un peu pénible parce que chacun a sa manière de faire, il faut aussi savoir s'adapter. Et quand on fait un chantier chez quelqu'un, on est un peu comme les ouvriers on fait les choses. Après, on peut, on constate aussi qu'il y a différentes méthodes, des choses qui marchent. Différentes sensibilités aussi, c'est un truc, il y en a qui aiment bien quand tout est super nickel, il n'y a pas une herbe qui dépasse, d'autres ça va être plus le fouillis, mais c'est aussi des questions de personnalité, on va dire. Il y a aussi traction animale ou mécanisation, donc on est deux, sur deux endroits il y a des animaux qui travaillent, sinon il y a aussi des tracteurs, des micro-tracteurs, des motoculteurs, donc on parle des outils rotatifs aussi, est-ce que c'est bien ou pas d'utiliser la fraise, le pour et le contre. Après on est tous quand même assez ouverts sur un peu tout, je pense, et on a envie de rechercher le truc à la fois le plus efficace, mais aussi qui nous procure du plaisir en travaillant, enfin, il y a les deux aspects quoi.
Et la question du bio, du label, c'est un truc que vous partagez. Enfin, je sais pas comment. Est-ce que vous êtes tous conventionnels, enfin, en labellisé bio? Est-ce que c'est un truc important?
Alors, on n'est pas tous labellisés bio, mais on travaille tous en bio. Moi, c'est sûr que je travaillerai pas chez quelqu'un qui utilise des produits chimiques, par exemple. Ça, on a tous la même philosophie là-dessus, quoi. On respecte la terre, on ne va pas lui mettre n'importe quoi dedans. Après, avoir le label ou pas, c'est une question de choix personnel, parce qu'il y a des avantages, des inconvénients à payer un organisme pour avoir le label ou pas. C'est pas nécessaire, quoi. C'est pas très important, en fait.
Comment s'est née cette idée d'Arban, d'organisation collective? Est-ce qu'il y a eu un événement déclencheur?
Alors au début, la première année, je crois, quand on s'est tous plus ou moins installés un peu en même temps, enfin, il y a plein de maraîchers en tout cas qui sont installés un peu dans le coin, on a fait des réunions pour s'organiser pour la commercialisation, pour ne pas être sur les mêmes marchés. Et du coup, on a aussi échangé sur est-ce qu'on fait des commandes groupées sur le matériel. C'était plus ça au début. Et après, on faisait un bilan en fin d'année, chacun le bilan de l'année et comment on envisageait la suite. Et à une de ces réunions de bilan... Alors moi, j'avais une amie qui m'a parlé que dans le Tarn, il y avait des agriculteurs qui s'organisaient comme ça. Ils faisaient une journée par semaine chez les uns, chez les autres. Et j'ai soumis l'idée en fait au groupe de maraîchers. En disant peut-être qu'on peut commencer par une demi-journée par semaine ou une semaine sur deux. Enfin, j'étais pas du tout sûre que ça allait provoquer de l'enthousiasme parce que c'est vrai qu'on est tous dans notre petite vie et se caler un jour vraiment un peu sacralisé comme ça dans la semaine, ça semblait pas évident. Et puis finalement, tout le monde a bien voulu essayer. Et on a dit qu'on essayait un mois ou deux, puis qu'après on allait voir comment on continuait. Et en fait, on est content de continuer.
Voilà. Donc ça, c'est depuis ce printemps.
Ça a commencé début mars, ouais. Et donc on en avait discuté à la réunion de bilan d'automne, en novembre-décembre, je pense. Parce qu'on s'organisait quand même pour faire des commandes pour les semences et tout ça, quoi. Donc on avait déjà des temps de regroupement, on va dire.
Oui, donc à la fois des temps de travail en commun et aussi des moments pour spécifiquement pour discuter, s'organiser. Ouais, voilà. Ça, c'est régulier aussi.
Ouais. Au début, c'était que ça, plutôt des réunions pour s'organiser. Après, on disait aussi qu'on pourrait faire des réunions plus sur des points techniques autour du maraîchage. Et en fait, et après, il y a eu le travail en commun qui est venu après. Mais c'est l'occasion de voir plus, en fait, de parler plus technique dans le concret, de voir comment chacun fait, plutôt que de le faire comme ça dans une réunion. Finalement, c'est mieux de le faire sur le terrain, puis de voir, passer de ferme en ferme, de voir l'évolution sur une saison, chez chacun, comment ça se passe. C'est vachement enrichissant.
Mmh. En sorte, vous avez créé votre propre organisme de co-formation.
Ouais, ça peut être ça. Ouais. Ouais. Surtout que c'est vrai qu'il y a des gens qui sont un peu plus expérimentés que d'autres, puis qui ont aussi des spécificités, quoi. François, il va faire plus les plans, donc on va lui demander des conseils. Sinon, on fait des plans aussi, mais pour le maraîchage. Et puis David, il fait du maraîchage depuis quand même très longtemps, donc voilà. Oui, on peut s'auto-former comme ça. Ouais.
Et si, imaginons, il y avait des nouvelles personnes qui arrivaient dans le coin, qui avaient envie de se lancer dans le maraîchage, est-ce qu'ils pourraient rejoindre le groupe ?
Oui, bien sûr. Je pense que le groupe, il est ouvert. Alors, on ne veut pas être trop nombreux non plus, parce que du coup, ça ferait, si on était 10, on ne revient pas souvent dans la même ferme, mais je pense que c'est plus compliqué. Puis déjà, accueillir 10 personnes, enfin, fournir du travail aussi à 10 personnes. Je pense que 5, c'est un bon nombre. Alors, éventuellement 6. Si. Après, ça peut être ouvert à d'autres qui ne sont pas maraîchers, en fait. C'est pas forcément maraîchage. On reste dans la production végétale, par contre. Je pense que moi, je fais plutôt des petits fruits. Et mais ça pourrait être, je sais pas, une amie qui fait de l'osier, par exemple, pourrait rentrer dans le système aussi. Peut-être l'élevage, c'est un peu encore spécifique. Alors, la question se posera peut-être à un moment. Mais je pense que oui, il faut un nombre, faut quand même pas être trop nombreux pour que ça fonctionne.
Donc c'est un engagement qui est quand même différent, complémentaire d'un engagement syndical, par exemple.
Oh bah oui, je pense que ça n'a rien à voir. Enfin, c'est pas quelque chose de public, enfin, on va pas se projeter vers l'extérieur, quoi. Là, c'est vraiment entre nous. Ouais, non, c'est complémentaire, je pense. C'est...
Alors, donc vous êtes installé comme donc plutôt petit fruit sur la commune de
Oria, près de Saint-Moreil. Ouais, ça fait 2 ans que je suis installée. J'ai planté un verger de petits fruits, donc ils sont encore petits. J'ai des fraises aussi, surtout les fraises qui donnent bien. Et je fais un peu de légumes aussi, mais c'est. C'est vraiment un petit peu, puis je vais diminuer les légumes pour les remplacer par des petits fruits. Et là, l'été, je fais essentiellement des sorbets.
Voilà. Et vous commercialisez sur les marchés ?
Oui, marché de Jansou, marché de Saint-Léo, et aussi sur commande, vente à la ferme. Ouais, c'est ça. Et le marché de Saint-Léo, on le fait le samedi matin avec Stéphane, du coup, qui participe aussi à l'Arban, là. Et ça aussi, c'était une pratique collective. Ça fait 2 ans, on fait un stand commun au marché. Donc on met en commun nos légumes. Puis on s'organise à deux, en fait, pour pas faire les mêmes productions. Se compléter. Et donc pas être concurrent, mais être vraiment complémentaire. Et on est ensemble sur le marché, ça fait un stand en plus qui est bien fourni, parce qu'il y a aussi du pain bio de Jérôme et Stéphanie de Champagna, il y a du coup mes petits fruits et puis des légumes. Et les clients, ils peuvent prendre tout d'un coup, payer d'un coup, puis après on s'arrange, nous, voilà, on fait notre petite magouille. Et puis on prend aussi des légumes des collègues quand on a besoin, quand on manque de légumes, quoi.
Et donc faire des petits fruits, c'est pas seulement les cultiver, c'est aussi avoir un atelier de transformation.
Oui, bah il faut, ouais, pour être bien installé, puis pour être aussi aux normes, il faut un endroit bien à part et puis lavable et tout ça. Donc moi j'ai eu la DJA essentiellement pour ce projet de laboratoire de transformation. J'ai transformé une partie, un appentis de ma ferme en labo, quoi. Et c'est vrai que c'est pratique.
Donc sorbet, confiture, compote.
Oui, l'année dernière, c'était beaucoup de compotes parce qu'il y a eu beaucoup de pommes. Je m'adapte un petit peu, là, je fais un peu des expériences. Donc, j'ai commencé les sorbets aussi parce qu'il y avait la canicule l'année dernière. Bon, c'est une idée que j'avais avant, mais de faire. Je pensais pas que ça allait marcher autant, en fait. Et confiture, c'est un peu si jamais j'ai des fruits qui me restent. Parce que là, au niveau de la production, je suis quand même limite pour vendre et en frais et en transfo. Il faudrait plus de production. Donc là, je fais ce qui me plaît pour l'instant. Je préfère faire des sorbets avec des confitures. Mais je ferai peut-être quelques confitures pour l'hiver, ouais. Puis il y a déjà quand même pas mal de production de confitures aussi dans le coin. Donc faut laisser... Il n'y a pas non plus forcément la place pour tout le monde dans cette production.
Et comment vous y êtes venue à l'agriculture? Vous n'êtes pas fille de paysan, paysanne? Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça?
Plein de choses. Après, c'est difficile, c'est un parcours de vie, quoi. C'est compliqué. J'ai commencé par faire du woofing. Un des trucs qui m'a fait découvrir le maraîchage, c'était par le woofing. Au Canada, où ouais, j'ai découvert que j'aimais ça. Après, on a fait un grand jardin collectif et ça m'a beaucoup plu aussi, m'occuper des légumes. Et petit à petit, je me suis dit pourquoi pas en vendre au marché. Il y avait aussi l'attraction animale, travailler avec un âne qui me plaisait beaucoup et qui permettait d'envisager une surface un peu plus grande sans mécanisation pétrole. Donc tout ça fait que je me suis dit peut-être en vendre et puis essayer d'en vivre. Et ensuite, les petits fruits, c'est venu plus par la configuration de mon terrain que j'ai acheté plus tard, qui se prêtait plus aux petits fruits qu'aux légumes. Donc j'ai découvert cette production que je connaissais moins après. Mais après, vivre à la campagne, je ne sais pas, c'est, pour moi maintenant, c'est une évidence, quoi. Je n'arriverai plus à vivre en ville. Mais c'est venu petit à petit. Voilà, ça fait peut-être 15 ans que c'est une démarche quoi, qui aboutit à ça.
Et est-ce que le fait de plus se diriger vers la culture de petits fruits, c'était pour limiter le travail? Est-ce que c'est moins de travail que du maraîchage ou c'est une fausse idée ça?
Non, c'est une fausse idée. Non, parce qu'il y a la cueillette qui est énormément de travail. Et même comme c'est assez concentré, on est obligé d'embaucher. Enfin, moi, j'embauche pas encore, mais quand on fait beaucoup de petits fruits, on ne peut pas tout cueillir soi-même. Donc, il faut trouver des moyens de cueillir. Et il y a beaucoup d'entretien. Beaucoup d'entretien en hiver, au printemps. Il y a la taille. Après, moi, c'est tout sur paillage. Donc, il faut rajouter de la paille aussi. À chaque fois, les fraises, c'est beaucoup de désherbage aussi, de plantations, parce qu'il faut renouveler les plantations aussi tous les 3 ans, faire des nouvelles plantations, faire des rotations dans les serres. Donc, c'est beaucoup de travail. Surtout quand il y a des petits fruits diversifiés, plus la transformation, du coup, qui rajoute aussi du temps. Et puis, moi, j'ai envie de faire aussi des légumes en même temps, donc un petit peu. C'est vrai que le printemps est bien chargé, du coup. Mais c'est pas moins de travail, mais c'est peut-être moins de mécanisation, par contre. Parce qu'une fois que les petits fruits sont plantés, on n'a pas besoin de travailler la terre à chaque fois. Donc ça, c'est un côté qui me plaisait aussi, quoi. Pas utiliser le tracteur. Il y a la tonte, par contre. Bon, j'ai des animaux qui tondent, mais parfois ils tondent les petits fruits même temps. La tonte de l'herbe. Ouais. De l'herbe entre les rangs, quoi. Ouais.
Et les ânes et les chevaux, ils font pas trop la différence entre l'herbe et les petits fruits?
Ouais, ils font la différence, mais ils aiment bien les deux. Donc il faut protéger les petits fruits. Il faut mettre des filets. Moi, je mets des filets, je les fais tondre entre 2 rangs de petits fruits. Mais je les mets pas la nuit là, par exemple, parce qu'ils pourraient passer la tête par-dessus et manger quand même un petit peu les petits fruits. Donc je réfléchis à avoir quelques brebis pour faire ça. Ouais, aussi pour les fraises, moi je travaille sans paillage plastique, donc ça rajoute des contraintes à dire, mais moi ça me plaît de ne pas avoir de bâche sur le sol. Mais c'est vrai que c'est une technique, donc je fais des fraises sur butte, sur billon pour travailler pour désherber en traction animale après la récolte et jusqu'à la floraison. Ensuite je paille quand les premières fraises se forment. Donc quand j'ai paillé, je ne peux plus travailler en traction animale, quoi. Je laisse pailler. Et par contre, à l'automne, bah, je repousse la paille, qu'elle ne s'est pas dégradée, et je recommence à travailler en traction animale entre les rangs. Et désherber à la main sur rang, quoi. Donc ça prend quand même pas mal de temps de désherbage. Après, ça fait des belles fraises.
Et sur toutes ces variétés de petits fruits, vous avez recherché aussi les variétés les plus adaptées à la région? Comment vous avez fait pour vous procurer, pour démarrer?
Non, j'avoue que j'ai fait un petit peu au hasard. Je ne connaissais pas grand-chose aux petits fruits. J'ai pris un peu ce qui restait en fraises sur le catalogue parce que je m'y suis pris trop tard. Maintenant, j'essaye des nouvelles variétés là. Mais là, j'ai commencé avec une variété qui s'appelle Asia de fraises et je l'ai multipliée parce qu'elle se multiplie très bien. Et je la trouve vraiment bien. C'est une fraise de printemps. En myrtille, bah, je sais que les myrtilles, c'est quand même adapté au Limousin, au sol acide. Donc, j'avais pas trop de soucis. J'ai pris des variétés plutôt pour échelonner la récolte sur la saison, quoi. Et ouais, non, j'ai pas fait beaucoup de recherches sur les variétés. Mais par contre, là, j'ai des groseilles. J'ai retrouvé des groseilles qui poussaient il y a 20 ans dans ma ferme, qui sont encore là. Donc là, je vais les bouturer pour reprendre ces groseilles-là. Parce que les groseilles que j'ai plantées, elles sont pas, elles s'adaptent pas très bien, j'ai l'impression. Elles sont beaucoup mangées. Et peut-être que des groseilles qui poussaient là déjà pendant je sais pas combien, peut-être des dizaines d'années, vont mieux résister. Je vais essayer de faire ça.
Maraîcher, on s'est installé en même temps que Stéphane en gros et Farfa et Camille aussi, ouais. Enfin la même année. Je suis sur à peu près 2000 m² de plein champ et j'ai deux tunnels de 200 m². Et puis ouais, bah, j'ai essayé de réfléchir pas mal à l'arrosage au moment où je me suis installé, aux outils, ce genre de choses pour essayer de perdre le moins de temps possible, on va dire. Et puis ma foi, ouais, ça commence à être intéressant, quoi. Enfin, je pense qu'il y a moyen de... Il y a moyen de vivre pas trop mal en étant maraîcher, à condition qu'on gère bien sa surface, quoi. Donc bien gérer l'enherbement, ce genre de choses, quoi. Et puis, ouais, bah...
C'est à Chessou, c'est ça?
Ouais, à Chessou, ouais.
Donc c'est pas trop haut en altitude?
Non, bah c'est... Bah le climat est un peu frais quand même, parce que c'est bah, les portes du plateau. Bah puis on est en Limousin, voilà quoi. Mais bon, ouais, en faisant attention bah, de pas semer, pas repiquer trop tôt... D'attendre que le sol soit bien réchauffé, on arrive à faire des trucs sympas, quoi. Puis il y a beaucoup de demandes dans le coin aussi de légumes frais, quoi.
Donc pour commercialiser, il n'y a pas trop de soucis?
Moi, je pense pas, quoi. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de soucis, sachant que moi, j'arrive à vendre dans un rayon de 15 km, en gros.
En vente directe, marché ou...
Ouais, marché, panier et restaurateur. Donc... Ouais, puis après, bon, ce que je me dis, c'est pareil, c'est que il y a un bassin de consommateurs, on va dire, à Limoges, qui est très important, je pense. Donc, au pire des cas, quoi, il y a toujours moyen d'aller vendre à Limoges, quoi. Donc, ouais, Limoges, c'est à peu près à 3/4 d'heure. S'il y a suffisamment de clients, ça vaut carrément le coup, quoi. Mais là, du coup, plus en panier, peut-être, parce qu'il y a déjà pas mal de maraîchers qui vendent en marché, quoi. Donc, de ce côté-là, c'est un peu saturé. Mais les paniers, c'est pas mal. Enfin, généralement, les clients... Enfin, moi, je vois mes clients en panier, ils sont assez conciliants, ils comprennent. Après, si on explique aux gens, ils comprennent, quoi, généralement. Les années où ça pousse, là, où ça pousse pas, bon, bah, voilà.
Donc, ça fait 5 ans à peu près?
C'est la troisième saison.
Troisième saison. Mmh. Et donc là, vous arrivez à en tirer un revenu déjà?
Ben, un petit revenu, mais c'est honnête, quoi. C'est honnête. Bah après, comment dire, bah c'est une façon de vivre aussi où bah faut essayer de réfléchir à ses charges, réfléchir à son mode de consommation pour pouvoir s'en sortir quoi. Mais ouais, c'est un peu un tout, ouais.
Et vous, avant, donc là ça fait 3-4 ans que vous êtes installé, avant vous étiez déjà dans l'agriculture ou...
Non, j'étais en bureau d'études sur informatique, ordinateur, AutoCAD, dessinateur industriel. Ouais, c'est différent. Non, puis j'ai grandi à la campagne et c'était plus du boulot en ville. Et... Bah ouais, j'ai fait ça quelques années, puis après j'ai commencé à réfléchir un peu à comment je pouvais faire pour profiter de la saison de champignons.
C'est chiant les
fruits. Parce que ça pousse pas en ville. Et puis ouais, non, c'est une bonne façon de se faire un revenu à la campagne avec une activité intéressante et... Et puis voilà, ouais. Puis on rencontre plein de copains.
Parce que souvent on entend parler de la solitude des paysans qui travaillent tout seuls. Du coup, cette histoire d'Arban, c'était une façon de rompre un peu ça.
Complètement, ouais. Complètement. Après, c'est... Bah, on a vite fait de s'enfermer de toute façon dans n'importe quel boulot, je pense. Et après, non, c'est... Ouais, faut aller à la rencontre des gens, quoi. Enfin, nous, on s'était rencontrés sur un café installation. Donc, café installation, c'est quelque chose qui a été mis en place par une association agricole à la base. Enfin, ils étaient peut-être plusieurs, mais bon, nous, c'était l'Ardéar qui avait fait ça. Et on s'était rencontrés sur un café associatif à Saint-Léonard-de-Noblat. Et puis voilà, ouais, on a échangé nos coordonnées, on s'est recroisés, puis voilà, on a mis ça en place. C'est David qui a eu l'initiative. Et puis ma foi, ouais, ça marche super bien, et c'est carrément intéressant, quoi.
Vous avez fait une formation ou vous avez démarré comme ça?
Moi j'ai fait une formation, mais le BPREA en maraîchage biologique au lycée des Vasés à Limoges, côté Limoges. Et bah, c'est bien, on m'a appris à faire de la compta. Donc la première année c'est chaud quoi.
Voilà. Vous voulez dire qu'on vous a pas appris à cultiver des légumes?
Bah en fait le problème, j'en ai discuté avec les formateurs là-bas et en fait il y a beaucoup... on est dans une région d'élevage donc la formation est plus orientée élevage que maraîchage. C'est beaucoup de fils d'agriculteurs qui font cette formation-là, donc du coup ils ont les bases d'agronomie, ils ont les bases de culture, et ce qui leur manque, c'est la gestion et la compta. Donc en fait ils ont plus axé la formation sur la gestion et la compta, sauf que quand on vient pas du milieu agricole, après on se débrouille. Mais bon, ça se fait, hein, mais ouais, faut être patient, quoi. Faut être patient. Ouais.
C'était quoi les plus grandes difficultés rencontrées au début?
Choix du matériel. Choix du matériel pour ce qui concerne le travail du sol. Ça c'est choisir un peu les variétés de légumes qui marchent sur son terrain, quoi. Puis après, savoir si on décide d'investir dans l'irrigation ou dans autre chose. Je sais pas.
Et sur le matériel, est-ce qu'avec cet Arban, vous avez du matériel mis en commun?
Sur des petits outils, après, vu qu'on n'est pas mécanisé de la même façon, on ne peut pas trop échanger d'outils, de gros outils, mais après, oui, ça peut être des semoirs, et puis, le maraîchage, c'est surtout beaucoup de désherbage, au final, et du coup, tout le monde vient avec son sarcloir et son machin, et puis voilà, ça avance, non, c'est bien.
c'est plus un groupe d'amis, enfin de gens qui se connaissent et aussi une certaine, enfin si on est plus que 5, tu vois, 5 ou 6, ça peut devenir un peu
c'est un petit peu difficile par rapport au nombre de fermes, quoi. C'est par rapport à la fréquence de passage, quoi, sur les fermes. Si t'es jamais chez toi, au final, c'est pas évident, quoi. Faut pas être trop long, sinon faut faire des sous-groupes, je sais plus à qui on en parlait, mais faire des, peut-être, regrouper plus de fermes, mais en sous-groupes, par secteur ou machin, et puis tourner, trouver un système de rotation qui fait que tout le monde passe dans l'année chez tout le monde, mais... Ça doit être gérable. Hein.
L'idée, c'est qu'on a enclenché quelque chose cette année et qu'effectivement, le couple qui va s'installer dans le bourg de Saint-Moreil, on puisse l'inclure dans cette rotation. Enfin, en disant, ben, voilà, il y a ça qui existe sur votre territoire. Est-ce que ça vous intéresse de participer à ce truc-là? Et du coup, voilà, c'est...
Mais ils seront à Truc de Champs Libre, là?
Oui, c'est ça, ouais. Mais du coup, voilà. C'est par contre, c'est sur la durée, quoi.
Non, moi, je pensais, par exemple, à Tamara, en Osier, enfin, peut-être d'inclure d'autres personnes qui ne font pas forcément du maraîchage, mais qui ont aussi des besoins d'aide de temps en temps, et qui pourraient être intéressés, quoi.
Mais l'un n'empêche pas l'autre, c'est-à-dire des coups de main ponctuels en disant, tiens, il y a cette force qui, après ceux qui sont disponibles, toi, autrement qu'un lundi, qu'un jeudi matin, effectivement, c'est possible d'entretenir des échanges de coups de main ou des solidarités en dehors du groupe. Mais effectivement, après, il y a l'histoire du nombre critique où tu peux effectivement... Si on passe deux fois chez toi dans l'année, c'est toi, si la rotation est trop longue, c'est plus compliqué, quoi. Enfin, c'est moins peut-être intéressant. Je sais pas.
Il y avait un maraîcher sur le plateau là qui, lui, ce qui le préoccupait vachement, c'était les distances pour commercialiser. Et qu'il disait que sur une petite exploitation, dès que tu dois faire des kilomètres pour aller distribuer à ta production, ça devient pas rentable. Vous avez imaginé quelque chose dans ce regroupement ou ça fait pas partie de vos préoccupations ou c'est pas un problème?
Peut-être que s'il n'y a pas trop de marché, après, il faut trouver d'autres systèmes de vente. Ça peut être des paniers, par exemple. Enfin, les paniers, ouais, ça permet de trouver des gens qui sont intéressés par ça, quoi. Et après, bon, c'est pas évident, ça prend du temps, hein, à monter un système de commercialisation qui tourne bien, je pense. Mais, faut démarcher, entre guillemets, et aller voir... aller voir les gens, quoi.
Mais ce qui est intéressant, c'est que collectivement, on peut s'appuyer sur le travail de rechercher des débouchés, et que effectivement, les débouchés que tu as trouvé, toi, Mickaël, on peut peut-être en bénéficier en disant, là j'ai plein de courgettes, toi t'en as pas trop, tu peux. Est-ce que tu peux, ou surtout sur le marché de Saint-Léo, où ça permet d'élargir un peu le. Ouais. Et de mutualiser une production et de s'appuyer sur les débouchés des uns et des autres et que j'ai l'impression que c'est plus simple de d'écouler nos marchandises, le fait d'être ensemble et d'être un peu reliés, quoi. C'est-à-dire que plusieurs fois les surproductions, on arrive à les passer sur les marchés des collègues et du coup
ça c'est déjà c'est déjà en place, quoi, actuellement. Les surproductions ou les légumes qu'on n'a pas sur les marchés, ils sont effectivement possible avec d'autres maraîchers, quoi. Du coup, sur une étale de marché, tu vas avoir tous les légumes, alors que toi, potentiellement, t'as loupé des cultures et en fait, t'as quand même une étale qui est complète, quoi. Ouais. Ça, c'est déjà en place actuellement.
Ouais. Avec le marché de Saint-Léo, essentiellement.
Puis d'autres aussi.
Tout est possible en fait dans les. Moi, j'ai pris des salades à Mickaël pour mettre dans les paniers de la MAP. C'est des choses comme ça qui, je pense, qu'on peut développer ces échanges-là et cet échange d'informations en disant, voilà, j'ai une planche de salade qui est super jolie, j'en ai largement pour moi, mes débouchés, du coup, voilà, si ça vous intéresse, ou si vous êtes en mesure d'en passer quelques-unes, faites-moi signe et tout ça. Et donc, il y a Saint-Léo, effectivement, où il y a un peu de sous-production cette année, du coup, effectivement, on peut compléter... nous autres qui... Ouais, et donc, voilà. Mais ça peut, effectivement, pour moi, c'est riche de se relier, de savoir un peu, et ça facilite un peu les débouchés et puis le fait d'écouler notre production qui est un peu débouché effectivement on arriverait vite en surproduction. Moi les premières années j'ai jeté des courgettes, j'ai jeté des concombres, mais j'ai l'impression que qu'aujourd'hui je pense que je perdrais beaucoup moins de légumes, et dès que j'ai un peu trop de courgettes que je suis pas capable d'écouler dans mes marchés, je peux les voir en disant bah tiens, est-ce que à Saint-Léo vous pouvez prendre une caisse de courgettes, et voilà, tout ça c'est quelque chose de positif et de plus. Enfin,
mais aussi pour la map du coup de Limoges, pour les transports, vous faites aussi une semaine sur deux. Faire la map à deux, c'est.
Ouais, quand le lieu de commercialisation est loin, de mutualiser ça, ouais, c'est carrément intéressant. Ouais.
Et est-ce que vous vous êtes posé la question des. Coup dur s'il y en a un qui ou une qui traverse une période difficile, tant au niveau du temps de travail que je sais pas, une production qui marche pas du tout, un problème d'arrosage, ou c'est des choses qui sont pensées, ou c'est plutôt au coup par coup où ça vient et de fait il y a une solidarité ou...
Ça sera le plus fort, Farfa. Ouais. Mais après, c'est pas évident, parce que moi je trouve que en fait, en tout cas, c'est quelque chose qu'on pourrait avoir le. Enfin voilà, ça peut servir à ça, et que après c'est difficile de peut-être de demander de l'aide. En tout cas, on apprend peut-être via ce collectif à être capable, être en mesure de dire là je suis un peu dans la galère. Est-ce que vous pouvez venir ? Ça peut être en dehors des jeudis matins, mais en tout cas, je pense que tous ceux d'entre nous sont prêts à filer ce genre de coup de main et à avoir cette solidarité. Et donc, pour l'instant, on ne calcule pas aussi dans les rotations de dire bah, chez qui on a été le plus. Enfin, on fait ça un peu en fonction des besoins des uns et des autres. Et après, il faut que chacun puisse avoir le courage de dire bah ouais, là j'en ai besoin, la semaine prochaine je veux que ce soit chez moi parce que j'ai vraiment besoin d'avancer sur ce truc là. Et donc voilà, c'est à nous individuellement de pouvoir être capable de demander de l'aide, quoi. Et, voilà. Mais en tout cas, ça peut ça, c'est plus facile de donner un coup de main que d'en demander, je pense. Mais je sais pas.
Ouais, c'est nouveau aussi, c'est la première année, donc c'est un test, quoi. C'est un test, et bah, pour l'instant, je pense que pour moi, c'est positif. Je pense que pour tout le monde, ça l'est. Donc, c'est réussir à créer ce réseau et à l'entretenir, à le faire évoluer, et puis voilà. Hein. Mais ouais. Bah, le plus dur, c'est la création après.
Et puis on ne savait pas si ça allait durer aussi en saison, quoi, parce qu'au début, c'est facile à mettre en place au mois de février-mars. Par contre, en pleine saison, on s'était dit, est-ce qu'on va réussir à quitter son exploitation, quitter son lieu, ne serait-ce que pendant une demi-journée. En fait, on s'aperçoit que ça fait du bien aussi de discuter de nos problèmes, surtout, je pense, tous, et puis c'est intéressant, quoi, de voir les gens qui passent.
Thérapie de groupe,
c'est une thérapie
de groupe.
Et puis on n'a pas à se faire chier à faire bouffer le jeudi midi, quoi.
Ouais, ça c'est cool.
Sinon c'est chaud. Hein,
manger. Ouais. Non, on a un petit peu adapté. Au début, on savait pas trop si on faisait un truc un peu strict. Un tour chacun, un calendrier où c'est marqué à chaque fois à qui c'est le tour. Et finalement, on fait un truc un peu. Pour les plants, par exemple, il y a plus de besoins en mai-juin, et moins l'été, donc on a plus été chez Farfa à ce moment-là. Puis ensuite, Mika, il a plus de travail de désherbage en ce moment qu'avant, il n'avait rien à faire. Enfin, du coup, c'est un peu en fonction des choses à faire.
Il ne voulait pas qu'on vienne chez lui.
Ouais. Finalement, le fait que vous ne travaillez pas tous de la même façon, ça permet d'étaler plus le travail.
C'est vrai que si on faisait tous la même chose, on aurait tous les mêmes besoins en même temps.
d'entendre David, Camille, François, Michael et Stéphane, maraîchers autour de Saint-Moreil. C'était Histoire de Terre, une émission mensuelle diffusée sur Radio Vassivière, un mercredi sur deux à 19h et un samedi sur deux à 11h. Vous pouvez retrouver ce reportage ainsi que tous les autres sur notre site internet radiovassivière.com.